Sens pratique. Votre avenir se construit aujourd'hui.
Bonjour Jean-Max Noyer, c'est un plaisir de vous interroger. Vous êtes professeur émérite. Vous avez une expertise ou une spécialité dans les transformations socio-numériques et également de l'innovation sociale. Les questions qui nous habitent visent justement à circonscrire de quoi on parle quand on parle d'innovation. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est de quoi y a-t-il innovation ?
Bonjour, d'abord merci de m'avoir invité et donc je vais tenter de répondre à vos questions, la première étant d'emblée relativement large. Alors, de quoi y a-t-il innovation? Le terme innovation est un mot valise, une notion très large et utilisée un petit peu à tort et à travers, et qui renvoie d'abord au nouveau, à cette sensation de nouveau. Ce qui est nouveau serait innovant, etc. En même temps, les grands courants de l'innovation, des pensées d'innovation sont du côté de l'économie, du côté de la technologie, du côté de la science et du côté des entreprises. Okay. La notion d'innovation dans les entreprises, c'est l'innovation plutôt organisationnelle qui est liée et attachée aussi à des innovations technologiques. Okay. Dans tous les domaines des institutions, les progrès de la technique okay, ont des effets plus ou moins importants à terme sur les phénomènes d'organisation, tout simplement parce que il y a tout un travail social d'appropriation par la machine sociale de ce qui va être un élément technique et un élément technique qui va introduire des différences, qui va introduire des changements dans les comportements, dans les paradigmes, dans les pratiques et dans les routines. Donc, de quoi y a-t-il innovation? C'est dans l'ensemble de ces domaines, dans l'ensemble de ces processus, ok, qu'on va définir plus ou moins concrètement ce dont il y a innovation. Ce qui nous amènera tout à l'heure certainement à préciser la nature des innovations en termes de importantes, pas importantes, mineures, majeures. Okay. Il va de soi que, par exemple, inventer la numérisation du signe, donc innover dans un système d'écriture, est une innovation majeure, mais qui va effectivement se révéler comme étant une innovation majeure, que parce que son appropriation par les systèmes sociaux et la machine sociale va en faire des choses plus ou moins importantes et grandes. Et lorsque les gens numérisent le signe dans les années 70, ils n'ont aucune idée, mais vraiment aucune idée, du monde qui va arriver derrière, de ce qui va se développer, de ce qui va s'incarner à la suite de ces innovations, qui d'ailleurs dans l'instant même peut ne pas être perçue comme une innovation majeure. Elle peut être perçue comme une innovation locale. Oui, mettre des 0 et 1 pour écrire le signe, bon, ça peut être perçu comme une innovation mineure et majeure. Donc, cette notion de mineure-majeure est elle-même un processus. Okay c'est-à-dire que l'innovation, au cours de sa vie et la manière dont elle va être récupérée par la machine sociale, au sens deleuzien du terme, c'est la machine sociale qui va définir ce qui est élément technique, ce qui ne l'est pas, ses usages, ses pratiques, etc. Ce processus est un processus complexe et qui change la valeur des innovations ou des processus d'innovation eux-mêmes. Voilà, j'étais un peu long, mais...
Pas du tout, pas du tout. Moi, j'aimerais bien creuser sur cette dimension technique ou technologique. Alors, je ne sais pas si vous voulez préciser la différence entre la technique et la technologie, mais en tout cas, on voit actuellement une vague importante de décisions qui visent à dématérialiser, numériser, utiliser la puissance de calcul, la puissance d'accès, la puissance des data et d'accès à des données, et de faire parler ces données. Les Canadiens parlent de forage de données. Hein. Est-ce que ce sont des innovations majeures ou mineures, ou est-ce qu'au contraire c'est une illusion d'innovation, simplement un accroissement de pouvoirs anciens que l'on prolonge avec ces techniques numériques? Quel est votre avis sur cette dimension?
Ben, je vais répondre en continuant mon raisonnement et ma première réponse. tout changement, toute variation dans le système d'écriture dans l'histoire a été des mouvements de rupture. L'invention de l'écriture assumère et l'invention de la monnaie est fondamentale. Elle est liée aussi à l'invention de l'État, à l'invention de l'armée, etc. L'invention de l'imprimerie est une invention capitale. Quand les gens inventent l'imprimerie en quelques endroits de la planète et de l'Europe, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont provoquer. Ils n'ont aucune idée des disruptions que cela va entraîner du côté religieux, du côté de la culture, du côté des savoirs. Ils n'imaginent absolument pas que ça va participer, par exemple, de la création des guerres de religion en Europe. À partir du moment où vous passez de 30 000 Bibles en Europe et de 10 ans après, vous en avez 10 millions, effectivement, la lecture ou l'interprétation des textes bibliques ne va pas être de la même nature. Et donc, vous allez avoir la Réforme, Calvin, Luther, etc. Bon, je suis un peu elliptique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, la digitalisation n'est pas une dématérialisation. C'est comme, ce sont des termes qui sont trompeurs, exactement comme le mot virtuel, qui est le concept de virtuel qui est trompeur. Ce qui se passe lorsqu'on numérise le signe, lorsqu'on passe, on transforme le signe en 0-1 en bit d'information, c'est une transformation des dispositifs matériels de création de sens, de circulation de sens, de circulation des savoirs. Okay. Pour dématérialiser les documents papier, quand vous faites passer un livre en numérique, il faut de l'énergie, il faut de l'électricité, il faut des algorithmes, il faut des interfaces, il faut des ordinateurs, etc. Donc, il n'y a pas à proprement parler dématérialisation. Il y a changement du système de matière ou changement d'échelle de la matière qui est convoquée dans la construction des dispositifs d'intelligence, donc là dans le cas présent, de reproduction, de la mémoire, de la production, de la circulation du savoir et des données. D'accord ? Donc oui, je pense qu'on est dans un mouvement majeur, parce que le mouvement d'écriture est affecté profondément. De la même manière, est d'autant plus que ce mouvement, cette nouvelle lignée technologique qui est le numérique, a rencontré très vite des déplacements importants du côté de la technologie et l'invention de nouvelles lignées technologiques. La biologie moléculaire, la nanotechnologie, tout ce qui a lieu du côté du cerveau, etc., va de pair avec cette numérisation du signe. Ces quatre mouvements font bouger le socle entier de la définition de l'homme, autrement dit le socle anthropologique sur lequel nous sommes. Alors ça s'incarne par les recherches sur le cerveau, ça s'incarne dans la construction d'hybrides de plus en plus sophistiqués, ça s'incarne par le retour de la technique à l'intérieur du corps humain avec des nanocapteurs, etc. Ça s'incarne dans la couverture sur la planète de milliards et de milliards de capteurs, ok, qui sont comme de nouvelles peaux se posent sur la surface de la Terre et qui permettent de gérer l'eau, l'électricité, l'air, etc., etc. Mais aussi les nanocapteurs à l'intérieur du corps qui permettent d'établir de développer de nouveaux types de médecine, de nouveaux types de contrôle. Voilà. En ce sens-là, oui, je pense que nous sommes dans une transformation de ce type et que le numérique y joue à l'évidence un rôle essentiel et ce d'autant plus que pour la gouvernance des territoires et des populations, ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire la production de grandes quantités de données dans l'ensemble des domaines et sous un nombre très variable de conditions, est un élément majeur. La création d'une physique sociale, comportementale, l'étude du marketing, la plupart des sciences sont traversées par l'irruption de ces big data et les effets non seulement quantitatif, mais les effets qualitatifs, voire conceptuels que cela produit à l'intérieur des sciences, à l'intérieur des pratiques et des politiques. Et ce mouvement très vaste rentre aussi en résonance avec le contrôle des populations de manière très triviale, contrôle des trajectoires, contrôle des agencements comportementaux sémantiques. Et le marketing a joué là-dedans un rôle majeur puisque le marketing a été le premier à utiliser ces big data pour faire des cartographies, faire des graphes définissant l'individu en tant que tel. D'accord, un individu aujourd'hui, c'est un nexus, un graphe. C'est la manière dont il s'exprime à travers les traces qu'il laisse sur les réseaux comportementales, géographiques, temporelles, etc., etc. Et d'autant plus aujourd'hui que l'émergence d'une intelligence artificielle qui vient simplifier ou automatiser un certain nombre de tâches cognitives fondamentales apparaît comme nécessaire pour développer des couplages algorithmes-cerveau pertinents pour penser la complexité du monde. Encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Et on sait que l'IA est plus ou moins consommatrice d'un grand nombre de quantités de data. Tout ça se fait dans l'espace numérique, dans l'espace de la numérisation du signe initial, ou à partir de cette numérisation. Voilà ma réponse un peu longue sur la question.
Merci beaucoup. J'aimerais bien creuser, j'ai bien aimé l'image des capteurs qui forment comme une seconde peau à la surface de la Terre. En même temps, on voit cette couche numérique, hein, on peut parler de couche numérique qui envahit toutes les sphères de la société. Donc, j'aimerais dire qu'il y a presque un écart entre une innovation de surface, telle que je viens de la décrire, c'est-à-dire qui recouvre des surfaces ou qui vient se substituer ou qui vient compléter ce qui existe, et puis une innovation plus profonde. Je sais que par ailleurs vous vous intéressez aux innovations sociales, une dimension humaine. Est-ce qu'il y a une dichotomie qu'on pourrait observer entre cette innovation de surface et cette innovation en profondeur, ou est-ce que c'est une fausse opposition?
D'abord, lorsque vous évoquez innovation de surface à partir de ma métaphore des peaux nouvelles ou des dermes nouveaux, on pourrait dire, qui sont posés sur la Terre, ça ne veut pas dire que c'est une innovation de surface, parce qu'elle serait légère. Elle est profonde, cette innovation. À partir du moment où vous créez de nouveaux systèmes, de nouveaux sensualismes pour capter la chaleur, l'air, tout un tas d'informations fondamentales, vous êtes dans une transformation profonde de la situation anthropologique et des territoires. C'est bien ce qui se passe, d'autant plus que ces couches dites de surface, elles englobent tout l'appareil orbital, elles englobent tout un tas de réseaux de traitement d'informations, etc., extrêmement sophistiqués. Vous observez la Terre à partir de la ceinture orbitale et vous la gérez en grande partie à travers de la ceinture orbitale. Vous gérez la logistique, vous gérez les sous-sols, vous gérez les récoltes, vous gérez des tas de choses, vous gérez l'agriculture, etc. Donc, je resterai pas trop dans cette opposition surface profonde telle que vous l'utilisez à partir de ma métaphore des peaux. Par contre, qu'il y ait des innovations plus ou moins importantes, cela va de soi. Mais ce qui va de soi aussi, c'est que les innovations qui sont qualifiées à un moment donné, au moment de leur naissance, ne sont pas toujours justes. Je pense que dans les années 69-70, les gens qui ont fait les premiers réseaux de computers à Los Angeles, comme les gens qui ont fait les premières bibes imprimées, n'avaient aucune conscience des évolutions profondes que cela impliquait. Le jugement de profond surface est pour moi, de profondeur ou de surface, est pour moi un jugement binaire dérivé, c'est-à-dire qui vient après coup. On regarde ce qui a beaucoup bougé, ce qui n'a pas beaucoup bougé. Quand vous ouvrez le code génétique et que vous avez le prix Nobel dans les années 60-70, Jacob et Monod, par exemple, sur la découverte du code génétique, vous sentez bien que vous avez touché quelque chose de fondamental, c'est profond, mais vous ne mesurez pas ce qui aboutit aujourd'hui à l'hybridation du corps humain, au traitement des organismes, au CRISPR avec le couteau génétique, donc à une transformation du vivant encore plus profonde. Voilà, c'est ça. Donc ces catégories sont à manier avec précaution. En tout cas, il ne faut pas les essentialiser, ces oppositions. Il faut les penser à chaque fois comme des processus qui peuvent changer de sens d'ailleurs au cours de leur développement ou de leur incarnation. Est-ce que je suis clair?
C'est très clair. Et peut-être pour conclure notre échange ou l'amener un peu plus loin, comment peut-on innover aujourd'hui? Comment innover l'innovation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire que de façon incrémentale ou d'amélioration ou de rupture, hein, souvent on a cette opposition. Est-ce que vous voyez apparaître de nouvelles pratiques, ou est-ce que vous aspireriez à de nouvelles pratiques pour également renforcer les liens sociaux, puisque si on fabrique de l'innovation, c'est aussi pour améliorer le vivre ensemble. En tout cas, je l'espère.
D'accord. J'essaie de comprendre, il y a deux questions dans votre question. Il y a à la fois se dire, est-ce qu'on peut améliorer comme ça ce qu'on est censé maîtriser avant d'ailleurs, c'est-à-dire la manière dont on innove et dont on invente. Mettons l'invention avant, dont on invente, puis dont on innove, puisque l'innovation, finalement, c'est une invention qui réussit quelque part. Okay. Et puis ensuite, vous revenez sur le rapport à l'humain, au lien social, etc. Donc, je vais répondre de manière inversée. Pour moi, le développement humain est consubstantiellement lié au développement technique. D'accord? C'est-à-dire que l'invention des premiers silex pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, du zinjanthrope au néandertal, le doublement de la boîte crânienne, passe par le mouvement d'extériorisation des silex, de la technique, etc. Et la technique, pour moi, n'est jamais opposée d'abord à l'homme. Elle participe d'un couplage plus ou moins compliqué, des fois réussi, des fois heureux, des fois malheureux, qui est lié à l'histoire humaine, pour la définition de ce qu'est l'humain. Si vous n'avez pas de système d'écriture inventé à Sumer, ou si vous n'avez pas de, vous n'avez pas de Shakespeare, vous n'avez pas d'écriture, donc vous n'avez pas d'imagination de ce type, vous n'avez pas d'univers qui est inventé, etc. Donc je n'oppose pas, moi, l'humain et la technique. Je peux définir des couplages positifs, des couplages négatifs avec l'homme, mais je vois aussi l'extraordinaire variation et invention qu'a permis, aussi bien du côté des affects que du côté social que du côté cognitif, ce couplage technologie, c'est un couplage structurel, une codétermination, si vous voulez, de la technique du cerveau, des cérébralités. Ceci dit, on peut porter des jugements sur ce qui nous convient ou qui ne convient pas, sur des effets négatifs positifs. La question du lien social est compliquée. Comment se fabrique un collectif? Comment se fabriquent les associations? C'est une question que les hommes affrontent depuis la nuit des temps et qu'ils portent avec eux. Donc, on est toujours dans des variations, là aussi, fondamentales, où il n'y a que du collectif. On crée des associations. À l'intérieur des camps de concentration, il y a du collectif et il y a du social. D'accord? Donc, qu'il y ait variation de la nature de ce lien social, qu'il y ait variation de la façon dont nous sommes associés aux autres et aux machines avec l'évolution de la technologie, ça va de soi. Je me souviens au début du net, la plupart d'amis universitaires n'arrêtaient pas de parler de perte du lien social, de perte du lien social. Et 30 ans ou 40 ans après, ils écrivent des articles contre Facebook, contre le lien social de Facebook, etc. Au fond, il y en aurait trop. Ou alors, ils ne leur conviennent pas. Il va de soi que la technologie, l'iPhone, etc., transforme la nature des liens qui nous unissent. Et de ce qui nous sépare aussi. Mais c'est pas lié à cette technologie-là, c'est lié à toutes les technologies. Sauf que les technologies qui opèrent dans l'univers de l'esprit, de la noosphère, des sentiments, des affects, etc., portent aujourd'hui au cœur de la cérébralité, au cœur de l'homme. Tous les gamins, excusez-moi d'utiliser la notion de gamin, mais tous les gens qui écoutent de la musique, jamais de la musique n'a été autant écoutée à travers le monde. Jamais... les enfants ont écouté autant de musique venant peupler le domaine des sons. Et on sait que la musique active des états internes dans le cerveau complexe, etc. On peut pas dire que la musique simplement les isolerait parce qu'ils écouteraient sur la plage ces morceaux avec leurs oreillettes. Mais en même temps, ces enfants partagent de la musique. Ces enfants échangent de la musique. Sont capables de les mettre en commun à un moment donné, dans un concert, etc. Donc je pense qu'il faut se méfier des oppositions binaires qui viennent après coup. Que ce mouvement de biomaturation technologique depuis quelques milliers d'années s'accélère, qu'il nous pose problème, qu'il ait des effets complexes, qu'il implique des adoptions plus ou moins faciles, plus ou moins maîtrisées, et qu'il implique surtout des comportements hétérogènes vis-à-vis de cela, ça va de soi, ok? Mais on est dans un processus où l'invention, l'innovation, je dirais, elle n'a pas besoin de changer a priori ses méthodes. L'innovation fait son chemin. Par contre, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est la réflexivité par rapport à cela, c'est-à-dire est-ce qu'on peut anticiper sans gêner le mouvement de la création, cette fameuse création continuée dont parlait Latour, ou ce mouvement de continuer la création, est-ce qu'on peut le faire d'une manière telle que ça ne gêne pas justement le travail darwinien de l'espèce humaine qui suit son chemin, okay, qui peut aller à sa perte peut-être, mais qui suit son chemin. Donc c'est ça, la difficulté, c'est à la fois d'être réflexif sur ce qu'on fait, est-ce qu'ouvrir le génome, oui, et faire de l'épigénétique et utiliser le CRISPR, c'est bien ou mal, oui, c'est intéressant, c'est réflexif, mais est-ce que la réflexivité qu'on va avoir là-dessus doit obérer ou doit fermer les devenirs biologiques en général? Voilà, ma réponse est un peu plus complète.
Ben, je vous remercie beaucoup pour cet entretien où se sont conjuguées ces dimensions technologiques et ces dimensions humaines. et où vous avez pu nous aider, je l'espère, avoir un peu plus de discernement. Merci beaucoup, Jean-Max Noyer, pour ce temps passé ensemble.
Merci à vous et je vous remercie encore de votre invitation.
Sens pratique. Votre avenir se construit aujourd'hui.